Jésus, c'est mon héros absolu depuis que j'ai 2 ans et demi, depuis que j'ai 3 ans, depuis qu'on m'a expliqué, que papa m'a expliqué qui c'était. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ont pu être choqués que je fasse de Jésus un héros mythique, mais pour moi, il n'y a rien de choquant à ça. Qu'est-ce qu'un mythe ? Un mythe, c'est une histoire qu'on raconte. Bah oui, c'est vrai, l'histoire de Jésus, c'est d'abord un mythe. Il n'y a pas d'opposition pour moi entre la mythologie grecque, la mythologie latine, la mythologie japonaise et la mythologie chrétienne. Tous ces récits ont à la base été des histoires et en plus ont été des histoires sacrées. Aujourd'hui, on peut parler de, je ne sais pas, d'Hercule, d'Héphaïstos, d'Aphrodite, mais à la base, c'était des récits tout aussi sacrés que la Bible. Donc pourquoi ne pas considérer Jésus comme une mythologie comme une autre ?
Épisode 10. La voix de Jésus, ou s'inspirer des évangiles dans un roman.
Je vais vous sortir le manuscrit de Soif, qui est avec les autres. Hein. Par exemple, là, il faut simplement que j'aille sous la table, parce que je sais que sous la table, il y a une caisse. Je retire la caisse, et dans cette caisse, il y a beaucoup de manuscrits. Voilà. Ah, le voici. Vous voyez que c'est un manuscrit qui a exactement la même apparence que tous les autres. J'ai pris un cahier à Thomas, comme tous mes cahiers d'écriture. J'ai écrit avec les mêmes Bic cristal bleu que d'habitude. Il était très important pour moi que ce 93e manuscrit soit écrit exactement avec le même modus operandi que tous les autres. C'est-à-dire avec du matériel humble, et particulièrement quand il s'agit d'écrire l'histoire de Jésus. Peut-être que la première chose qu'il faut, c'est énormément d'humilité. Alors si vous n'avez pas d'abord du matériel humble, c'est fichu. C'est ici que j'ai écrit Soif, voilà, dans la cuisine. C'était terriblement intimidant, parce que je savais qu'il s'agissait du livre de ma vie. Ça faisait tout simplement 50 ans que j'avais envie de l'écrire. Et je savais aussi que si j'échouais, il n'y aurait pas de deuxième chance. J'ai une certaine habitude de l'écriture, je ne crois pas aux deuxièmes possibilités. Vous savez, c'est comme en amour. Quand on a raté avec quelqu'un, eh bien, c'est raté. Le rafistolage, je n'y crois pas trop. Eh bien, c'était pareil. C'était le livre de ma vie. C'était le 93e manuscrit dont j'accouchais, dont j'étais enceinte. Je pense que j'ai écrit les 92 qui ont précédé vraiment pour me muscler, pour devenir la meilleure athlète possible dans l'idée de pouvoir enfin traduire ce son-là que j'entendais depuis que j'étais toute petite, à savoir le son de Jésus. Ce qui est très étrange, c'est que quand j'écris, j'ai l'impression de descendre dans les entrailles de moi-même, dans ce qu'il y a de plus bas en moi. C'est pour ça que j'appelle ça le sous-marin de l'écriture. Et quand je suis dans ces abysses, j'entends des bruits que j'identifierais à ceux qu'on entend à l'intérieur d'un sous-marin. Et je crois que ce sont les battements de mon cœur qui, à ce moment-là, deviennent très, très spéciaux, qui prennent une ampleur anormale. Normalement, on n'entend pas battre son cœur. En tout cas, moi, je ne l'entends pas. Mais à ce moment-là, je l'entends et j'ai l'impression que les battements de mon cœur sont anormalement lents et anormalement explosifs. Et donc, pour obtenir le jaillissement de l'écriture, je dois très fort tendre l'oreille, et c'est en tendant l'oreille très fort que j'entends le son. Alors, il ne suffit pas de l'entendre, encore faut-il reproduire ce son au moyen du langage. Je cherche ma propre musique, mais pour chercher cette musique, je dois d'abord l'entendre. L'idée, c'est qu'il faut d'abord l'entendre en soi, et puis la traduire en un son qui m'est plus familier, comme un son langagier. Depuis l'adolescence, depuis ma prime adolescence, il y a énormément de voix que j'entends en moi. C'est assez rare que je puisse commander à ces voix. Normalement, c'est plutôt des voix qui prennent possession de moi. C'est très embêtant. Je pense que pour moi, écrire, c'est aussi vouloir devenir un petit peu le chef d'orchestre de ces voix, c'est-à-dire les choisir et éventuellement les solliciter. Là, la sollicitation était de la dernière prétention, puisque je voulais que la voix de Jésus s'exprime à travers moi. Pour traduire la voix de Jésus par les moyens du langage, il m'importait que cette voix soit la plus simple possible. Le son de Jésus est un son simple. Ce n'est pas du tout le son d'Ulysse. Le son d'Ulysse est moins simple. Le son de l'Odyssée est un son lyrique très complexe. Le son de Jésus est un son très élémentaire. C'est un son de désert. Il y a peu d'adjectifs, peu d'adverbes. C'est une écriture d'une très, très, très grande simplicité. C'est une écriture très ascétique et en même temps qui mêle tout ce qui est à hauteur d'homme avec la mystique pure, qui est de plein pied avec les choses les plus simples. Des gens ont pu me dire, mais comment osez-vous dire que Jésus fait pipi? Mais pour moi, absolument rien de gênant à ça. Dans les évangiles, les besoins physiques sont sur le même plan que les besoins mystiques. Donc, c'est tout à fait naturel pour moi que Jésus fasse pipi et que la seconde d'après, il soit en transe mystique. Donc, dans mon évangile à moi, je sais, c'est affreusement prétentieux de dire une chose pareille, dans mon évangile à moi, il m'importait que Jésus soit incarné jusqu'à être véritablement un jouisseur. Et même un peu une chuchote. Les choses les plus infimes le font souffrir. Une écharde lui fait une douleur intense. Un verre d'eau tiédasse lui procure une jouissance infinie. Une nourriture médiocre est pour lui une source de très grand plaisir. Et tout ceci me le rend infiniment sympathique. J'aime un Jésus qui soit exposé à tous les faits du corps. En plus, on a toutes les raisons de penser que Jésus était un tombeur. Vous imaginez ? Déjà, c'était un homme qui parlait aux femmes à une époque où personne ne leur parlait, qui écoutait les femmes ou à une époque où on les écoutait encore moins. En plus, on a toutes les raisons de penser qu'il avait une présence très particulière et un regard très particulier, mais les femmes devaient tomber comme des mouches et il n'en aurait rien fait. Je refuse de le croire. Il était vraiment très important que Jésus soit vraiment un homme. Alors oui, bien sûr, dans la Bible, dans les évangiles, on nous dit que Jésus est un homme, mais ce n'est pas toujours si flagrant que ça. Il y a quelques passages des évangiles où l'humanité de Jésus est frappante, mais pas assez à mon goût. Par exemple, le fait que Jésus soit un homme incarné, on ne le sent pas tellement. Finalement, la meilleure incarnation de Jésus dans les évangiles, c'est la soif, mais là encore, on est tout près du contresens parce que il y a ce passage où Jésus dit à la Samaritaine « Et si tu bois de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. » Mais pour moi, c'est exactement le contraire, la parole de Jésus. La parole de Jésus est une parole qui fait naître la soif. Parce que la soif n'est pas du tout une métaphore de la foi. La soif, c'est la foi. Ce n'est pas un hasard si j'ai choisi cette région du monde. Il ne me suffisait pas qu'elle soit politiquement déchirée. Il me fallait une terre de haute soif. Aucune sensation n'évoque à ce point celle que je veux inspirer, que la soif. Sans doute est-ce pour cela que nul ne l'a éprouvée autant que moi. En vérité, je vous le dis, ce que vous ressentez quand vous crevez de soif, cultivez-le. Voilà l'élan mystique. Ce n'en est pas la métaphore. Quand on cesse d'avoir faim, cela s'appelle satiété. Quand on cesse d'être fatigué, cela s'appelle repos. Quand on cesse de souffrir, cela s'appelle réconfort. Cesser d'avoir soif ne s'appelle pas. La langue, dans sa sagesse, a compris qu'il ne fallait pas créer d'antonyme à la soif. On peut étancher la soif, et pourtant, le mot étanchement n'existe pas. Il y a des gens qui pensent ne pas être des mystiques. Ils se trompent. Il suffit d'avoir crevé de soif un moment pour accéder à ce statut. Et l'instant ineffable où l'assoiffé porte à ses lèvres un gobelet d'eau, c'est Dieu. C'est un extrait de Soif, mon livre. Écrire Soif était monstrueusement difficile. C'était, à ma façon, porter la croix. Je ne prétends pas un instant mesurer ma peine à celle qu'a pu éprouver Jésus en portant sa croix, mais à mon très humble niveau, c'était quand même porter ma croix et c'était quand même y être cloué. Depuis que j'ai 12 ans et demi, la crucifixion me rend malade. La doxa au sujet de cette crucifixion dans les évangiles et aux yeux des chrétiens, c'est que la mort de Jésus était absolument indispensable pour sa renaissance et pour notre salut à tous. Ce qui ne me va pas du tout dans cette histoire, c'est que Jésus non seulement soit tué, mais soit tué dans d'atroces souffrances et dans des souffrances humiliantes. Que Jésus soit abaissé On a beau jeu de dire « oui, mais tout ceci est symbolique ». Non, tout ceci n'est pas symbolique. Nous avons tous souffert dans notre vie. Il suffit d'avoir fait une seule fois l'expérience de la souffrance. Je parle de la vraie souffrance physique et morale pour savoir que on a beau jeu de dire à la personne qui souffre « oui, mais tu sais, ce que tu vis, c'est juste un symbole ». Non, quand on souffre, c'est pas un symbole. On n'en peut plus, c'est inacceptable. On n'a qu'une seule idée, c'est d'en sortir. Comment est-ce qu'on peut nous présenter la souffrance comme un passage nécessaire au salut ? Pour moi, c'est parfaitement inacceptable. Et comment est-ce que Jésus, individu supérieur s'il en est, a pu accepter ce qui, pour moi, est une erreur à ce point fondamental ? C'était pour moi une question tellement obsédante que je ne pouvais littéralement pas continuer à vivre sans avoir un embryon de réponse. Eh bien, j'ai trouvé une réponse. Une réponse à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Jésus, mourant sur la croix, soudain, repense à ce qui est en fait l'essentiel du message qu'il est venu apporter, à savoir le pardon. Quelle est la spécificité du message chrétien, du message christique ? C'est la possibilité du pardon, qui nous paraît à nous un peu un lieu commun. Il faut se replacer à l'époque de Jésus, est une vision absolument révolutionnaire. L'idée que le mal puisse, sans contrepartie, être simplement, on va pas dire oublié, mais enfin, qu'on ne va plus en vouloir à celui qui a commis la faute, c'est une idée révolutionnaire. Et là, Jésus soudain se dit, mais au fond, est-ce que la première personne à laquelle il faut pardonner, est-ce que ce n'est pas d'abord soi-même ? Je suis venue dire qu'il fallait pardonner aux autres, mais peut-être que quand on s'est trompé soi-même, eh bien, c'est à soi-même qu'il faut pardonner. Il ne faut pas entretenir cette culpabilité, il ne faut pas souffrir de cette culpabilité. Si loin qu'on soit allé dans sa faute, on peut se pardonner à soi-même, encore faut-il le faire vraiment. Et il décide, dans les quelques minutes de vie qui lui restent, de se pardonner réellement à lui-même, de se pardonner son erreur, à savoir l'erreur d'avoir accepté le sacrifice, d'avoir pensé qu'une souffrance aussi monstrueuse que la crucifixion et le sacrifice pouvaient avoir quoi que ce soit de rédempteur pour autrui. Ce qu'il y a de terriblement toxique dans ce message, c'est qu'il fait naître l'idée du martyr comme une idée rédemptrice. Nous sommes à fond dans ce monde du martyr, pas seulement chez les chrétiens, voyez ce qui se passe dans les autres religions. Nous sommes en pleine glorification du martyr. Et le martyr, qu'est-ce que c'est ? C'est la haine de soi. Et la haine de soi, c'est exactement la même chose que la haine de l'autre. Nous sommes à fond là-dedans. Tout ce qui est de l'ordre du mépris du corps, de la haine de soi, ne peut, à échelle de civilisation, que devenir abominablement violent et toxique. Il y a cette gigantesque absurdité dans les évangiles « Aime ton prochain comme toi-même ». Et qui est-ce qui nous dit cette phrase sublime ? C'est Jésus qui ne s'aime pas. Nous savons que Jésus ne s'aime pas puisqu'il accepte d'être crucifié. Donc « Aime ton prochain comme toi-même » devient une phrase monstrueuse. Ça veut dire « Aime ton prochain comme toi que tu vas crucifier ». Donc finalement, n'aime personne, hais tout le monde comme tu te hais toi-même. Ben oui, il y a de quoi vouloir se pardonner d'avoir dit une erreur pareille. Mais en même temps, tout le monde a le droit de se tromper. Écrire Soif a vraiment tout changé pour moi. Parce que justement, j'ai trouvé une réponse. J'ai trouvé un chemin. Voilà la réponse à la question qui me taraudait, c'est que Jésus a accepté de commettre une telle erreur pour montrer que si on pouvait se pardonner à soi-même une chose à ce point grave que celle-là, une chose à ce point funeste à échelle de civilisation, eh bien alors tout le monde pouvait se pardonner. Somme toute, bon, je ne suis pas une innocente, j'ai aussi accompli des fautes, et ces fautes, Dieu sait si elles me rongent, y compris d'ailleurs des fautes que je n'ai pas accomplies, qui me rongent encore plus que celles que j'ai faites. Mais l'idée, c'est que si Jésus a pu se pardonner une erreur aussi grave, alors tout le monde peut se pardonner, et moi aussi je peux me pardonner. Ça ne veut pas dire que je me suis pardonnée. Ça veut dire que maintenant, au moins, je sais que c'est la direction. Vous savez, c'est déjà colossal d'avoir une direction. Pourquoi est-ce que Jésus nous parle ? Parce que Jésus est réellement bouleversant. Jésus, il est de notre côté, il est comme nous, il nous bouleverse, il prend parti pour nous. Il va vers le pécheur, la pécheresse, et il l'aime d'amour ou d'amitié. Mon pari sur Jésus, c'est que c'est un homme parfaitement ordinaire qui, un jour, a décidé d'être Jésus, c'est-à-dire d'être un Dieu présent pour tout le monde. C'est ça qui l'a fait Dieu, c'est sa décision. Autrement dit, c'est une décision que nous pourrions tous prendre, mais une décision qui nous engage à quelque chose d'énorme, à savoir d'être présent, mais réellement présent, et présent pour tout le monde. Il faut un sacré courage, un sacré saut mystique pour prendre une décision pareille.